France Inter.
France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, question sur les allergies. Pourquoi sont-elles en augmentation? Est-ce pour des raisons liées à l'environnement, au changement climatique, avec une saison des pollens qui a tendance à jouer les prolongations? Est-ce dû également à l'importation de certaines espèces, végétales, animales, à nos modes de vie, à une diversification alimentaire qui connaît de moins en moins les frontières, ou à tout cela mis bout à bout? On va poser la question ce soir alors que les trois quarts de la France sont en alerte aux pollens en raison du printemps et des conditions météo de cette fin de semaine. Pourquoi autant de personnes sensibles au pollen? Désormais 25 à 30% de la population, paraît-il, serait concernée, alors qu'il y a 60 ans, c'était 3%. Allergies plus ou moins graves qui peuvent toucher tous les âges. Comment s'en prémunir? Comment les soigner? Sachant qu'il y a toutes sortes d'allergies, aux moisissures, aux poils de chat, aux médicaments, aux aliments, et j'en passe, et pas les meilleurs. Quel réseau d'alerte pour se protéger? Autant de questions que l'on va aborder ce soir avec nos invités. Bonsoir, professeur Niam Famti.
Bonsoir.
Allergologue à Paris. Bonsoir, professeur Jocelyne Just.
Bonsoir.
Professeur allergopédiatre à l'hôpital américain de Neuilly. À distance, nous sommes en ligne avec Samuel Monnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Ingénieur responsable communication du RNSA, le réseau national de surveillance aérobiologique. Un réseau qui nous permet d'avoir plein d'informations dans toute la France. On va y revenir d'avance. Merci à tous pour vos appels et merci à nos standardistes.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Un premier appel pour commencer, celui de Juliette. Bonsoir Juliette.
Bonsoir.
Merci d'avoir appelé. Mais je vous en prie.
Merci de prendre mon témoignage.
Mais un témoignage ou une question, Juliette?
Alors, c'est les deux. Mon cousin est allergique depuis tout petit, fait des fortes crises d'asthme. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'il y avait une telle augmentation des personnes allergiques, et notamment chez les enfants.
Eh ben, c'est une excellente question qui va nous permettre de commencer cette émission. Un grand merci de l'avoir posée, cette question, Juliette, qui parle de son cousin, augmentation des allergies. Vous êtes d'accord sur ce point tous les deux, professeur Jocelyne Just?
Oui, tout à fait. Ben, les allergies augmentent, c'est notre mode de vie occidental qui l'explique avec une perte de facteurs protecteurs, le fait d'être en contact avec la nature, avec les animaux qui vont nous donner un microbiote, c'est-à-dire les bactéries, les bonnes bactéries qui sont dans l'intestin, les voies respiratoires, qui fait que notre système immunitaire va dans le bon sens. Parce que l'allergie, c'est quoi? C'est une rupture de tolérance. Et donc, cette rupture de tolérance est liée à l'appauvrissement de notre microbiote parce que l'environnement change.
Ça, c'est vrai qu'on soit en ville ou qu'on soit à la campagne, professeur Niam Famti?
Oui, exactement. Exactement ça. C'est la perte de la biodiversité. Probablement, notre patrimoine génétique a été programmé depuis des millénaires pour être en contact avec une diversité aussi bien de la faune et de la flore qui va rééduquer notre système immunitaire. Et comme le disait le professeur Just, c'est que il y a cette modification et cette perte de contact avec l'environnement qui fait que probablement notre système immunitaire est un peu déboussolé et va avoir tendance à se retourner entre guillemets contre nous. D'où l'émergence de nombreuses maladies auto-immunes dont font partie les maladies atopiques allergiques.
Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est valable pour nous ici en Europe occidentale ou c'est valable même à une échelle plus large?
C'est valable à l'échelle mondiale. Dans tous les pays qui est industrialisé, d'ailleurs il y a un gradient est-ouest, plus à l'ouest et nord-sud. Donc plus le pays est en voie de développement, plus l'allergie augmente, et ça a été montré même sur des populations qui sont génétiquement identiques mais qui vivent de façon différente, par exemple en Russie, et on voit très bien, ou en Allemagne, et on voit très bien que lorsque on a un mode de vie occidental, l'allergie croît.
Alors Juliette nous parlait de son petit cousin, ça veut dire que les enfants sont concernés au premier chef par ce développement des allergies, ça c'est aussi quelque chose de nouveau?
Oui, parce que les enfants sont des êtres, des organismes qui sont en cours de constitution, donc leur système immunitaire va apprendre des choses, et si on ne leur donne pas les bonnes règles, les bonnes règles de lecture de l'environnement, eh bien ils vont probablement développer des signes allergiques. Il y a d'autres cofacteurs qui viennent jouer dans l'évolution, ce sont les pollutions de manière générale. On se rend compte maintenant, grâce à de nombreuses études, que les facteurs polluants qui viennent de l'atmosphère, de la pollution atmosphérique, des particules fines, ultra fines, des modificateurs de notre système immunitaire et endocrinien, avec les perturbateurs endocriniens, toutes ces molécules chimiques viennent modifier la réaction immunologique et peuvent amener à augmenter le risque d'allergie.
Alors, on va évidemment revenir sur ces maladies, puisque vous dites que ce sont des maladies, hein, très clairement,
sur la façon... Ah oui, ce sont des maladies, hein, oui. Parce que bien souvent, avant, on disait l'allergie, est-ce qu'il y a besoin d'être docteur? Alors, s'il vous plaît, oui.
Oui.
Ce sont des maladies et des maladies qui peuvent être graves.
Qui peuvent être graves, évidemment. Mm. Avec, évidemment, certainement des degrés différents, des formes différentes.
Oui.
Hein, on disait, il y a beaucoup d'allergies de types différents.
Oui.
Actuellement, on parle des pollens, parce qu'on est au printemps, on a eu une semaine très pluvieuse. Il se trouve que nous sommes en ligne, je le disais, avec Samuel Meunier, du réseau RNSA, un réseau national de surveillance aérobiologique. Samuel Meunier, vous publiez des cartes tous les jours, pratiquement. Qu'est-ce que vous constatez sur la carte de France actuelle ?
Oui, donc au RNSA, nous mesurons les pollens dans l'air grâce à un réseau de 80 capteurs présents sur tout le territoire. Et ce qu'on observe, c'est une augmentation des quantités de pollen, surtout en lien avec l'augmentation des températures ces derniers jours. Et là encore, ce week-end, ils annoncent un temps vraiment exceptionnellement doux, qui va vraiment favoriser encore plus la floraison des arbres, et notamment les bouleaux qui sont très allergisants et qui gênent fortement les allergiques actuellement sur les trois quarts du pays. On est en risque élevé, donc le risque maximal pour ces pollens de bouleau.
Pour les pollens de bouleau, vous publiez donc cette carte nationale au RNSA, mais vous publiez aussi des cartes un peu plus précises à l'échelon local qui permettent à chacun d'entre nous de regarder un petit peu ce qui se passe autour de chez lui.
Tout à fait, on fournit des informations auprès des communes, auprès des villes aussi, sur les risques liés au pollen. Donc on a pour mission vraiment d'informer les allergiques pour qu'ils puissent adapter leur traitement, le prendre au bon moment, et puis suivre les bons gestes, limiter leur exposition au pollen. Donc on fournit aussi des recommandations régulières sur les bons gestes à suivre, comme on va en parler sûrement, mais se rincer les cheveux pour éviter que les pollens se collent sur les cheveux, aérer le matin tôt, le soir tard, parce qu'il y a moins de pollen dans l'air à ce moment-là, fermer les fenêtres en voiture, voilà, plein de petits conseils. Éviter de faire du sport dans un parc en plein air, en plein pic de pollen, c'est pas très recommandé si on est allergique. Plein de petits conseils qu'on donne pour limiter son exposition au pollen. Bien sûr, l'idée, c'est vraiment de pouvoir informer au mieux les allergiques.
Alors, on va revenir sur tout ce que vous venez de nous dire, mais on va prendre un nouvel appel, celui de Marie-Madeleine. Bonsoir, Marie-Madeleine.
Bonsoir.
Je sais pas d'où quelle région vous nous appelez.
Je suis dans la Drôme.
Dans la Drôme. Des problèmes d'allergie chez vous, de votre côté ?
Oui, depuis enfant, je présente plein d'allergies alimentaires, entre autres, qui créent des problèmes respiratoires, des œdèmes. Et en fait, je me suis rendu compte il y a quelques années que toutes les allergies que je pensais faire depuis enfant, en fait, je les ai pas quand les aliments sont bio. Et du coup, ça m'a pas mal questionnée. Enfin, voilà, j'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça.
Eh ben, on va essayer de vous répondre, ouais. Marie-Madeleine. Est-ce que le bio chasserait les allergies, professeur Jocelyne Juste ?
C'est pas trop connu. Les allergènes alimentaires, souvent, vont se modifier sur le plan moléculaire et donc devenir moins allergisants lorsqu'ils sont cuits ou lorsqu'ils sont soumis à de l'acidité ou de la pasteurisation. C'est connu pour le lait, c'est connu pour la pomme, c'est connu pour ce type d'allergène. Donc une modification structurel de l'allergène qui va faire qu'il est moins allergisant ou plus du tout. Maintenant, la qualité bio ou pas bio, c'est pas, si vous voulez, pas trop connu. Alors, on sait que si on va laisser, par exemple, une pomme dans un frigidaire longtemps, elle va devenir plus allergisante, par exemple. Mais la mode de culture, pour ma part, pas trop connue. Enfin, je sais pas.
Et vous, professeur Niamh-Famti?
Je rebondis sur ça. C'est exactement vrai, parce que probablement, pour Marie-Madeleine, elle a des allergies croisées au pollen et aux fruits. C'est-à-dire qu'il y a des protéines en commun entre ces fruits et ces pollens, et qui vont donner des réactions plus ou moins fortes en fait au niveau de la bouche, etc. Et donc ces protéines-là dépendent de la maturation du fruit. Donc effectivement, dans certaines cultures bio, comme les fruits doivent se débrouiller tout seuls sans aide extérieure de pesticides, peuvent avoir plus ou moins une richesse en ces protéines-là. Après, effectivement, le pesticide peut jouer, mais pas dans un rôle immédiat. Je pense que c'est plus un empoisonnement potentiel de manière chronique et répétée tout au long d'une vie, mais ça n'a pas une action, on va dire, immédiate. Donc c'est plutôt la façon dont est produit le fruit et éventuellement ces allergies croisées au pollen. C'est ce qu'on observe le plus, en fait.
Alors, à propos des allergies au pollen, parce que Samuel Monnier nous a parlé du bouleau. Moi, j'avais envie de savoir, effectivement, on a toute une liste de végétaux, d'arbres qui sont potentiellement
allergisants. Oui, tout à fait. En région parisienne, le premier, c'est le bouleau, en cette période, c'est-à-dire février, mars, avril, on va dire que c'est celui dont les pics sont le plus importants et qui donne le plus de symptômes et qui donne ces fameux syndromes pollen-fruits, c'est-à-dire qu'il y a une parenté entre moléculaire, antigénique, entre le pollen de bouleau et certains fruits et légumes, et que vous pouvez tout à fait commencer par une allergie respiratoire, une rhinite, voire de l'asthme, et puis après avoir une allergie alimentaire à certains fruits comme la pomme, la poire, avoir un syndrome oral. Et c'est ça, sur ce qu'on veut souligner, nous les allergologues, c'est dire que l'allergie au pollen croît, mais elle devient de plus en plus sévère également. C'est-à-dire que on n'a pas uniquement la rhinite, mais on a aussi l'asthme et on a l'allergie alimentaire. Et on voit de plus en plus ce type de malades qui ont les trois allergies.
Et que ça peut être grave.
Et ça peut être potentiellement grave. Grave. Alors, même. Au départ, c'est un syndrome oral, c'est-à-dire que ça pique la bouche, ça peut un peu gonfler, un peu d'urticaire autour de la bouche. Mais si on a des cofacteurs, c'est-à-dire si on se met à courir et puis à manger sa pomme, ou si on est en saison pollinique, on mange sa pomme, et puis qu'on a un stress ou qu'on prend des anti-inflammatoires, enfin, un certain nombre de cofacteurs, là, on peut faire des réactions sévères.
Et pourtant, professeur Aniam Famti, c'est vrai qu'on... Il fait beau, c'est le printemps, les arbres sont en fleurs, on a envie de sortir, on n'a pas envie de fermer les fenêtres, de se calfeutrer, c'est ce qu'il faudrait faire ?
Alors, se calfeutrer, non, pas forcément, mais alors, effectivement, il faut, comme le disait Samuel Monnier tout à l'heure, essayer de limiter le contact avec les pollens. Mais bon, on peut essayer de mener quand même une vie normale, et quand vous rentrez du dehors et que vous êtes sensible, il faut essayer de se débarrasser du pollen, donc se rincer, notamment le visage, les cheveux éventuellement, les yeux, toutes les surfaces sensibles, donc les voies respiratoires, le nez, de ne pas hésiter à faire des lavages de nez, des yeux, et puis surtout mettre en place le traitement que on vous a prescrit, ou alors que vous allez chercher à la pharmacie avec des colliers anti-inflammatoires pour les yeux, des sprays nasaux pour décongestionner, et puis surtout si vous commencez à avoir des symptômes respiratoires comme de la toux, une gêne, des sifflements, donc vous avez peut-être de l'asthme, et donc là il faut vraiment aller consulter et ne pas laisser les choses traîner. D'autant plus qu'on a actuellement sur notre territoire des phénomènes météorologiques qu'on ne voyait pas avant, qui sont les orages de pollen.
C'est-à-dire, c'est quoi un orage de pollen ?
Les orages de pollen sont des événements qu'on observe partout dans le monde. Donc ça a été décrit en Australie, en Angleterre, en Irlande, etc., en Europe. Et ça commence à venir sur notre territoire. On a eu des événements comme ça dans les dernières années, à Nantes, et même dans l'Île-de-France. Et donc c'est au moment des orages. Il peut y avoir une concentration phénoménale de pollen et éventuellement de moisissures, de particules, et qui vont donner des épidémies de crise d'asthme. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans un endroit donné, vous allez avoir des services d'urgence qui vont être congestionnés avec un afflux de personnes qui vont faire des crises d'asthme. Et malheureusement, chaque année, il y a des décès dans le monde à cause de cette histoire.
Et ça, Samuel Monnier, je me tourne vers vous. Vous êtes à Lyon, responsable donc du RNSA, Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Sur votre carte de France, là, actuellement, vous voyez un phénomène se profiler, comme celui dont on vient de parler, qui pourrait provoquer encore plus d'allergies ?
Oui, tout à fait. C'est bien connu, ce phénomène d'asthme d'orage. Dame Famti l'a bien expliqué. C'est vrai qu'on a lancé l'alerte déjà en juin dernier. On a vu des gros orages arriver en plein pic de pollen de graminées. Donc les graminées sont les petites herbes qui gênent les allergiques, qui arrivent après la saison des arbres, donc plutôt en mai-juin. Et là, début juin, l'an dernier, on a eu un phénomène vraiment extrême avec des gros orages et en pleine saison de graminées. On a lancé l'alerte en disant attention les allergiques. Là, ça va être vraiment un week-end très compliqué début juin 2023. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Il y a eu beaucoup d'hospitalisations pour crise d'asthme sévère. Vraiment, on observe vraiment ces phénomènes et on est en lien direct avec Météo France pour pouvoir informer au mieux les allergiques sur ces phénomènes d'asthme, d'orage, et puis pouvoir informer quand il y a un pic de pollen. On a bien sûr la température, le vent aussi, ce sont des pollens qui sont émis en grande quantité dans l'air dès qu'il y a du vent et sont dispersés sur des grandes distances et en plus grand nombre. Donc dès qu'on a un phénomène de vent, ce week-end ils annoncent notamment du vent du sud, des poussières de Sahara, des pics d'ozone en ville, que des facteurs aggravants malheureusement pour les allergies.
La totale, hein, c'est
voilà,
vraiment ça.
Malheureusement.
Professeur Jocelyne, je vous donne la parole dans une demi-seconde, promis, mais on va repasser par le standard de France Inter. On va aller retrouver Lucie qui est en Charente-Maritime. Bonsoir Lucie.
Bonsoir.
Alors des soucis avec les pollens vous aussi?
Ouais, mais c'est récent, je savais pas et en fait en courant, j'étais très très essoufflée et même ça devenait des crises d'asthme, mais je savais pas que c'était ça et c'est mon médecin qui m'a orientée vers la crise d'asthme allergique à cause des allergies.
Merci Lucie pour ce témoignage. Ça veut dire quoi, professeur Jocelyne Just? Ça veut dire qu'on peut devenir allergique avec le temps? On peut devenir asthmatique même quand on l'était pas avant?
On peut devenir, oui, à tout âge, allergique et asthmatique. Hein. Comme on l'a dit au début, l'allergie, c'est une rupture de tolérance. Hein. On tolère des choses qui sont inoffensives, le pollen, l'acarien, puis d'un seul coup, on tolère plus. Ce qui est intéressant dans le témoignage de cette jeune femme, c'est le fait qu'elle s'est survenue à l'effort. Je parlais tout à l'heure de cofacteurs pour l'allergie alimentaire. Il y a aussi des cofacteurs pour l'asthme. C'est-à-dire que si vous courez en plein soleil, et qu'il y a un pic de pollution qui est favorisé par le solène, par exemple le pic d'ozone, et il y a en plus des pollens parce que il fait beau, vous avez 4 raisons de faire une allergie forte et d'aller à la crise d'asthme. Donc il faut aussi savoir dire qu'il ne faut pas faire d'efforts quand il fait beau, il ne faut pas faire la course, le jogging à midi alors qu'il fait beau et qu'on est pollinique et qu'il y a un pic d'ozone parce que là, vous risquez d'atterrir aux urgences.
Bonsoir Valérie. Alors vous êtes en Bretagne.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai une question. Donc j'ai pris des antihistaminiques pendant une trentaine d'années, très fréquemment étant allergique aux acariens et aux pollens. Et je me demandais si cette prise d'antihistaminique ne peut-elle pas détériorer l'organisme à la longue. Est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires à la longue?
Eh bien vous avez bien fait de nous appeler parce que professeur Nanyam Famti va vous répondre, peut-être vous rassurer Lucie, je ne sais pas.
Oui, en fait, les antihistaminiques sont quand même des molécules dans la pharmacopée qui ne posent pas beaucoup de problèmes. Et effectivement, il y a des patients qui prennent des antihistaminiques depuis longtemps sans avoir de problème majeur. Mais bon, cependant...
Est-ce que vous pourriez nous expliquer le principe de l'antihistaminique? Qu'est-ce qui se passe par rapport au phénomène de l'allergie?
Alors, l'antihistaminique, comme son nom l'indique, va venir bloquer la sécrétion de l'histamine, en fait, hein, qui fait partie de notre organisme et qui est libérée dans l'organisme par les cellules, qui est une sorte de, en même temps, de messager, de molécule d'alerte, en fait, pour l'ensemble de l'organisme, pour mettre le système immunitaire en alerte. Et il va aussi stimuler d'autres cellules qui vont avoir tous les effets de l'allergie, les vaisseaux qui se dilatent, les cellules qui s'énervent. Et c'est comme ça qu'on a cette réaction de défense inadaptée, le nez qui coule, parce qu'il va y avoir des actions sur les autres cellules, sur les vaisseaux. Et donc, l'antihistaminique va bloquer ça, va avoir une action assez rapide.
Donc, en fait, c'est préventif même de prendre un antihistaminique?
Alors, ça peut l'être, mais en général, on le prend au moment des symptômes. Ça a une efficacité vraiment sur les symptômes de manière très, très, très générique.
Et vous rassurez donc Valérie, vous aussi
Ah oui, tout à fait. Je rassure, mais je voulais rajouter quelque chose par rapport au traitement des allergies. Tous ces traitements-là, c'est des traitements symptomatiques. Aussi bien les traitements antihistaminiques que les corticoïdes au niveau du nez, des bronches ou des yeux, c'est des traitements qui vont vous soulager, mais qui ne traitent pas l'allergie. Lorsque l'allergie devient invalidante, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais qu'on est passé de la rhinite à l'asthme, ou de la rhinite au syndrome oral avec des allergies croisées, ou que ça impacte sur votre qualité de vie, sur votre sommeil, sur votre profession, sur sur les cours. On a montré que les enfants allergiques aux graminées réussissaient moins bien à l'école. Enfin bon, là, il faut désensibiliser. C'est le seul traitement qui permet de modifier l'histoire naturelle et qui permet d'éviter ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'allergie grave au moment des pollens. Il y a une très belle étude qui a été faite en Australie, justement, où ils ont comparé des sujets qui étaient allergiques aux graminées. Certains étaient désensibilisés, d'autres pas.
Donc ça marche.
Il y a eu un orage pollinique et vous n'avez pas eu d'hospitalisation chez ceux qui étaient désensibilisés. C'est fort.
Donc ça marche, il faut le faire.
Oui, ça fonctionne à tous les coups, dans le sens où on va diminuer le seuil de réactivité. Donc la personne va être améliorée. Donc c'est un traitement qui est quand même long, qui nécessite un investissement personnel.
En fait, on réintroduit l'allergène dans le corps, mais à petite dose.
C'est ça. Vous êtes allergique au pollen de graminée, par exemple, et on va récolter du pollen de graminée naturel. Et au lieu de vous l'appliquer dans le nez, dans les yeux, on va vous le mettre dans la bouche, là où le système immunitaire est plutôt dans la tolérance. Et ça va rééduquer l'ensemble de l'organisme en disant, entre guillemets, bah, le pollen, c'est pas si méchant que ça. Et donc, on va diminuer cette réaction anormale qui a été mise en place au moment des pollens, des allergies.
Et ben voilà, il y a des solutions.
Le téléphone sonne.
Je vous rappelle que nous parlons ce soir des allergies, toutes les allergies, que nous sommes avec le professeur Niam Famti et avec la professeure Jocelyne Just, ainsi qu'avec Samuel Meunier du Réseau National de Surveillance Aérobiologique. On va reprendre un nouvel appel. Cette fois, c'est Ghislaine qui est en ligne. Merci d'avoir appelé. Bonsoir Ghislaine.
Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités.
Vous vouliez poser une question Ghislaine ?
Oui, j'aurais voulu savoir s'il existe un facteur héréditaire, enfin des marqueurs génétiques pour les allergies. Bon, un parent allergique peut-il transmettre ses allergies à ses enfants ?
Bonne question. Oui. Comment on peut répondre ? Oui.
Alors ça, oui.
Sans hésitation.
Clairement, on dit 20% d'allergiques en population générale, 40% de risque quand vous avez un parent allergique et 60% lorsque vous avez deux parents allergiques. Et souvent, on va hériter de la même allergie, c'est-à-dire que le frère a une allergie alimentaire, la sœur va a un risque d'avoir l'allergie alimentaire, le papa a une allergie pollinique, l'enfant a un risque d'allergie pollinique. Donc on a souvent la même allergie, c'est pas seulement l'allergie en général. Mais il y a quand même des enfants qui n'avaient aucun terrain et qui développent l'allergie, et c'est pour ça que ça croît, hein. C'est parce qu'il y avait des gènes un peu silencieux qui vont s'exprimer par la modification de notre environnement.
Professeur,
oui, la génétique est effectivement extrêmement complexe en fait. Il n'y a pas un gène de l'allergie, donc c'est une maladie multigénique dans le sens où il y a des défauts de programmation. Ce que j'aime à expliquer aux patients, c'est que il y a deux familles de gènes qui sont perturbés. La première famille va coder pour ce qu'on appelle les surfaces. Votre corps est fait de surfaces, la surface de la peau, des voies respiratoires et du tube digestif. Donc, pour faire très court, il y a probablement une porosité qui se met en place quand le ciment ne colle pas bien les cellules ou quand celles-ci ne sont pas bien fonctionnelles. Et donc cette porosité va, on va dire, surexposer votre système immunitaire ou va laisser passer un certain nombre de choses. Et par exemple pour la peau, pour l'eczéma, bah vous allez avoir la peau sèche, qui désquame, etc. Et puis vous avez une deuxième famille de gènes qui vont coder pour les mécanismes, c'est-à-dire que le système immunitaire, qui va plutôt être plutôt méfiant, et qui va surréagir. Et donc l'ensemble de ceci va donner tous les tableaux cliniques dont on parlait, donc soit sur la peau, soit sur les voies respiratoires ou le tube digestif, ou parfois même les trois, et parfois même pas tout de suite, parfois plus tard, un âge plus avancé, comme pour le cas de Lucie tout à l'heure. Donc c'est très complexe. On a un effet d'environnement aussi qui agit sur ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que notre mode de vie, notre alimentation, notre confrontation de polluants va modifier, va faire démarrer aussi des allergies. Donc vous voyez que c'est très complexe.
Alors une question plusieurs questions qui arrivent sur le site de France Inter. Petit, j'étais allergique et asthmatique depuis que j'ai quitté la métropole et que je vis en Outre-mer. Je n'ai plus d'allergie ni de crise d'asthme. Ça, c'est Emmanuel qui nous dit ça. On a aussi Sébastien par mail qui nous dit « J'ai vécu à Paris jusqu'à mes 30 ans. Mes printemps étaient horribles. Depuis que je suis dans le sud, j'ai plus d'allergie. » Bon, alors là, c'est la géographie des allergies. Je sais pas.
Alors, c'est plusieurs
qu'est-ce
choses.
Qu'est-ce qu'on peut répondre à nos auditeurs?
C'est plusieurs choses. C'est d'abord la pollution atmosphérique qu'il y a dans les grandes villes qui est très très importante. Et puis, c'est les allergènes, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez été... Très souvent, les allergies vont se décliner dans la petite enfance. Donc, vous êtes allergique, par exemple, au pollen de bouleau parce que vous vivez à Paris. Voilà. Puis, vous déménagez dans le sud et il n'y a plus de bouleau. Alors, il y a du cyprès. Donc, ça ne veut pas dire que quelques années plus tard, vous n'allez pas être allergique au cyprès. Mais effectivement, si vous n'avez plus l'allergène, vous allez mieux.
Alors, voilà, on nous parle aussi de l'ambroisie dans les mails qui arrivent. Samuel Monnier, quels sont les végétaux que vous répertoriez sur votre site?
Oui, alors on suit bien sûr les pollens dans l'air. Alors tous les pollens ne sont pas allergisants. Hein. Il y a quand même une bonne nouvelle. Par exemple, actuellement, on a le pin qui est en floraison. Les pollens de pin ne sont pas vraiment allergisants. C'est un pollen qui est visible à l'œil nu, hein, qui fait comme une poudre jaune parfois qu'on voit sur les voitures, sur les trottoirs, sur les balcons. Mais le pollen de pin n'est pas allergisant, tout comme le pollen de châtaignier qui est pas allergisant. Voilà, il y a une longue liste de pollens non allergisants. Et il y en a d'autres qui sont très allergisants, bien sûr, qu'on suit. Il y en a 19 qui sont répertoriés sur notre site, qu'on suit de près, notamment. Les châtaignes, l'aulne, le noisetier et le bouleau qui font partie de la même famille des bétulacées qui gênent les allergiques en début d'année, le cyprès aussi. Ensuite, on a l'olivier aussi, le frêne qui font partie de la même famille des oléacées qui gênent fortement les allergiques. Les graminées, bien sûr, c'est une grande famille. Et puis enfin, on a l'ambroisie qui fleurit en été, hein, en août-septembre, qui gêne les allergiques, qui est la dernière, vraiment, une espèce exotique envahissante qui a un pollen qui est très allergisant.
Alors oui, effectivement, l'ambroisie, j'ai l'impression que c'est devenu l'ennemi public numéro un en matière d'allergie. On peut dire ça, professeur Niam Famti?
Oui, il a été d'ailleurs déclaré comme nuisible hein, par... donc elle est légiférée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... Il y a des politiques de santé publique, d'arrachage, de surveillance, et donc il y a des mesures qui ont été prises. Hein. C'est une plante qui, quand on regarde les cartes d'année en année, va remonter en fait, et on voit que c'est accéléré par le réchauffement. Donc c'était limité à l'axe du Rhône, et maintenant on en voit jusqu'en Bretagne.
J'ai vu aussi qu'il y a une réflexion dans certaines villes par rapport aux espèces d'arbres que l'on peut planter. C'est important, ça, professeur Juste?
Oui, ce qui est important, c'est de garder la diversité. C'est-à-dire ne pas faire des rangs de bouleau ou des rangs de cyprès. Là, vous augmentez le risque allergique. Si vous diversifiez la végétation, vous diminuez le risque allergique. Et la nature est bien faite quand on voit la nature, on n'a pas qu'un seul type d'arbre. Et donc, il est important de le savoir et de pas planter des graminées par hasard. Comme on voit des fois à Paris, on voit des graminées un peu partout. L'allergie aux graminées, ça peut être sévère, ça dure 2 mois quand même par rapport à l'allergie aux arbres. C'est une allergie fin de saison. Quand vous êtes allergique aux arbres puis aux graminées, ça se termine très mal au mois de juillet. Donc c'est pas une plante qu'il faut favoriser en ville.
Et quand on a un jardin, est-ce que c'est important aussi de réfléchir à ça, ou de toute façon c'est pas à l'échelle du jardin que ça se passe et que de toute façon ça se balade partout?
Bien sûr, on a des nuages de pollen. Quand vous avez des nuages de pollen de bouleau, c'est sur toute l'Europe. Hein. Mais effectivement, on a un effet aggravant de proximité. Si vous êtes dans la cour d'école et qu'il y a des bouleaux partout, vous allez être gêné de manière très forte, en fait, parce qu'il peut y avoir une concentration locale extrêmement importante. Donc oui, se faire conseiller, éviter de planter des plantes allergisantes, mettre des cyprès partout, c'est beau, ça peut être ornemental, mais il y a des revues. D'ailleurs, le RNSA édite une fiche de conseils par rapport à ces plantations.
Voilà, le RNSA, qui est donc cet organisme dont nous parle Samuel Monnier. On précise qu'il y a même aussi une application qu'on peut télécharger sur son smartphone. Ça donne plein d'informations. J'ai vérifié, vous pouvez y aller. On va partir en Isère maintenant, parler des animaux. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Alors, ma question c'était relative à la prévention de ce problème d'allergie. Et est-ce qu'il y a un rôle positif de la fréquentation d'animaux dans l'enfance pour l'éducation du système immunitaire? Alors, je pense en particulier aux poules, mais quid des chats aussi?
Bonne question. Alors, tout le monde a envie de vous répondre. Professeur Jocelyne Juste.
Oui, vous avez raison, monsieur. La théorie hygiéniste vient un peu de là, c'est-à-dire le fait d'être élevé dans une ferme, on a remarqué, diminuer le risque d'allergie, donc le contact avec les animaux, notamment les animaux de ferme. Avec les animaux domestiques, c'est moins clair. Et surtout, quand vous avez déjà des signes d'allergie, il faut pas prendre un animal pour diminuer le risque. Hein. Ce sont des thérapeutiques, des façons de faire de prévention. Alors après, la prévention d'allergie, elle est multiple. Il n'y a pas que les animaux, il y a la diversification alimentaire qu'il faut faire de façon précoce. Ça, c'est très important. Écoutez bien les jeunes mamans, entre 4 et 6 mois, il faut diversifier un maximum votre enfant avec les aliments dits allergisants, c'est-à-dire le poisson, c'est-à-dire l'œuf, c'est-à-dire l'arachide, c'est-à-dire les fruits à coque. Ça diminue l'allergie alimentaire. Il faut, chez des enfants qui ont de l'eczéma ou qui ont une peau sèche, mettre des émollients, c'est-à-dire graisser la peau pour éviter, tout à l'heure Nan Fanti vous disait, la peau, la barrière est malade en cas d'allergie, la peau est malade et laisse passer les allergènes et favoriser l'allergie, donc il faut mettre des émollients.
Alors Jacques nous parlait des poules, vous avez parlé des chats. Moi j'aimerais bien vous poser la question des insectes, professeur Niam Famti, parce que c'est cette saison, les guêpes, etc. vont arriver. C'est important de se désensibiliser quand on est allergique. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'une manière générale?
Alors, l'allergie aux héminoptères, donc aux venins de guêpes ou d'abeilles, ça c'est un sujet vraiment à part. C'est pas parce que vous êtes allergique au pollen que vous avez plus de risques, vous avez le même risque que la population générale de réagir à ces piqûres-là. Ce que l'on voit plus souvent sur les peaux sensibles atopiques, c'est que les piqûres de moustiques font des réactions de plus en plus fortes. Mais ça c'est plus dû éventuellement aux sortes de moustiques et puis aux peaux, au pluriel, qui deviennent plus sensibles. Non, contre le venin d'héminoptères, vous allez faire des tests et vous allez vous faire désensibiliser que si vous avez une réaction sévère qui a entraîné un choc anaphylactique ou un malaise ou des symptômes sévères. Mais sinon, en dehors de ça, non, il n'y a pas de risque aggravé. Donc, il ne faut pas paniquer par rapport à ça.
Et quand on a un terrain allergique, est-ce qu'on a intérêt à aller faire des tests pour savoir à quoi on est allergique? C'est important de le faire, ça?
Non, on fait des tests que s'il y a des symptômes. Parce que si vous faites, à nous trois par exemple, des tests cutanés allergologiques, la moitié d'entre nous, enfin 2 sur 3, vont avoir des tests positifs, et il n'y en a qu'un qui va être malade. Donc c'est le symptôme qui conduit à l'exploration allergologique.
Sinon, c'est pas la peine.
Sinon, c'est pas la peine. C'est pas parce que vous avez des parents qui sont allergiques qu'il faut vous faire des tests cutanés pour voir si l'enfant est allergique. S'il n'a pas de symptômes, non.
Alors, autre question, les allergies aux médicaments. C'est Joël qui nous appelle du Mans et qui souhaite en parler. Bonsoir Joël.
Bonsoir. Attendez, je vais me mettre dans une autre pièce parce que ça résonne. Oui, voilà, je fais des allergies. Je peux prendre pendant X années quelque chose sans problème et du jour au lendemain, je fais une allergie. Actuellement, j'ai des problèmes avec l'Aerius. J'ai tendance à... J'en ai pris pour calmer mes allergies et j'ai l'impression que ça double mes allergies. Alors, suis-je allergique à un colorant? Je suis une ancienne infirmière. Hein. Suis-je allergique à un colorant qui compose l'Aerius? Je me pose plein de questions. Et comme je me lave les cheveux, je me rince avec de l'eau vinaigrée. Et cette eau vinaigrée, je repasse de l'eau pure dessus. Et ben ça va pas, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai la peau qui me tire comme si on me tirait les cheveux, c'est vraiment très pénible, ça me pique les yeux.
Ah bah alors on va demander à nos deux spécialistes si c'est une bonne idée de se passer de l'eau vinaigrée sur la tête. Allez, professeur Niam Famti.
Oui, donc ça peut être éventuellement un peu agressif. Donc ce que j'entends chez vous, Joël, c'est que vous avez des surfaces qui sont probablement sensibles, hein, la peau qui surréagit, un système immunitaire un peu chatouilleux, des intolérances plutôt plus que des allergies peut-être. Hein, donc avec une liste de médicaments qui est longue. Ça nécessite effectivement de faire un bilan posé, de se poser les bonnes questions. Il y a plusieurs choses. Il y a une sensibilité des barrières, il y a de la réactivité, des intolérances. Tout ça est très compliqué. Donc, il faut vraiment bien serrer les choses. Et effectivement, ça peut être compliqué et on va tendance à peut-être à mélanger les choses et à mettre de la sévérité peut-être là où il n'y en a pas. Mais effectivement, quand on est très sensible comme ça, c'est très important de faire des tests pour pouvoir diminuer l'anxiété difficultés qu'on peut avoir par rapport à la prise de certains médicaments pour pouvoir bien serrer les problèmes et donner des solutions précises. Donc c'est important aussi de consulter, de faire des tests et puis avoir des solutions derrière, peut-être de désensibilisation, d'éviction, d'adaptation, etc.
Lucien, sur l'application France Inter, nous demande est-ce qu'on peut guérir d'une allergie au pollen et aux moisissures ? Est-ce que le corps peut s'adapter ? Ou est-ce que ça dépend des conditions de vie ?
Alors, il y a deux situations. Soit vous êtes désensibilisé, enfin, on a trouvé le bon pollen qui vous rendait malade, on vous désensibilise et vous pouvez être, on peut dire, guéri, hein, parce que les symptômes, vous rentrez en rémission, en tout cas. C'est-à-dire, vous n'avez plus de symptômes à l'arrêt après 3 ans de désensibilisation. Soit alors, on sait que le système immunitaire dans la vie, c'est un peu une cloche. D'ailleurs, comme tous les systèmes biologiques, hein, ça augmente jusqu'à l'âge de 20 ans, puis après, ça décroît. Et donc, l'immunité, il y a ce qu'on appelle l'immunosénescence. C'est-à-dire, plus vous vieillissez, moins vous êtes allergique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'allergie. Ça veut dire que...
Ça se passe mieux. Voilà. Un tout dernier appel. Bonsoir, Roland.
Bonsoir.
Si vous êtes court, je vous prends en ligne.
Alors, je vais être court.
Est-ce qu'il est déjà 57, pratiquement, c'est pour
bon,
ça.
Alors, moi, ça fait 57 ans que j'ai le rhume des foins. Je l'ai chopé, j'avais 5 ans. Maintenant, j'en ai 62. Et j'ai noté une très nette amélioration du fait de mon régime alimentaire. J'ai complètement supprimé tous les laitages à base de lait de vache. Et du coup, je n'ai plus d'asthme depuis quelques années. Et plus ça va, moins je suis malade en été au moment des foins. Quoi. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage, Roland, dans la Loire.
Oui, c'est possible. Ça, par exemple, si vous avez une intolérance au lait de vache ou une intolérance au lacto, c'est-à-dire que votre système digestif faisait de l'inflammation au contact de ces aliments. Donc cette source d'inflammation vient enflammer une autre. Donc si vous n'êtes pas bien quelque part, autre part, vous êtes probablement bien. Bon, c'est peut-être ça qui se passe. Hein, donc, ou effectivement, la diminution de la sensibilité. Mais les organes communiquent entre eux, en fait.
On fait de la dentelle, hein, et de vraies enquêtes. Hein. C'est un métier d'avenir, allergologue, hein, si je vous ai bien entendu,
c'est
tous les deux.
C'est complètement ça. C'est bien pour ça que c'est devenu une spécialité, alors que ça ne l'était pas avant, hein, malheureusement. Mais maintenant, c'est une spécialité. Il y a des internes, c'est scientifique, il y a de la recherche, et il y en a besoin.
Et il y en a besoin, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, je vais peut-être passer la parole, mais très très rapidement, Samuel Monnier, comment on fait pour télécharger l'application du RNSA?
Oui, déjà on peut aller sur notre site pollen.fr et retrouver toutes les informations sur notre site et sur les applis du RNSA ainsi que sur les réseaux sociaux. On est joignable. Bon courage à tous les allergiques.
Eh ben merci beaucoup Samuel Monnier. Merci beaucoup à vous Niam Famti d'être venu ce soir et à vous docteur Jocelyne Just. Merci à tous ceux qui nous ont appelés.